Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp, paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.
Chapitre 1, le coup du boulet. Ignace de Loyola vient au monde à la veille de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, date hautement symbolique d'une époque en pleine ébullition. À Rome, Alexandre VI Borgia accède au siège de Pierre. L'année suivante, il partage les nouveaux mondes entre l'Espagne et le Portugal. Au tournant du siècle, Luther a 17 ans. En 1505, il entre au couvent des Augustins d'Erfurt. 15 ans plus tard, c'est la rupture avec Rome. François Ier monte sur le trône de France en 1515. Léonard de Vinci peint la Joconde en 1506. Michel-Ange sculpte la Pietà en 1501. Parmi ses contemporains, Loyola compte Jean Calvin et Rabelais. Chez les maîtres à penser de son temps, Érasme de Rotterdam, l'Italien Machiavel et l'Anglais Thomas More dominent la réflexion philosophique et politique. Au cœur des grandes conquêtes, le courant humaniste ébranle la tutelle de l'Église et l'unité de la chrétienté, époque féconde et tragique. Ignace est totalement un enfant du siècle. On le voit jusqu'à la 30e année de sa vie, adonné aux vanités du monde et se délectant dans l'exercice des armes avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. Quant aux conquêtes féminines, elles hantent son esprit jusqu'au fantasme délirant. Il n'est pas d'exploit qu'il ne souhaite accomplir pour une certaine dame, pas seulement comtesse ou duchesse, mais de conditions plus hautes que toutes celles-ci. Le rêve ne se réalisera pas. En revanche, c'est bien pour un acte de bravoure militaire qu'il perdra ses espoirs mondains et transformera peu à peu ses désirs de prouesse charnelle en très grand élan vers le service de notre Seigneur. S'il change d'objectif après le coup de boulet qui le fauche sur les remparts de Pampelune le 20 mai 1521, il ne modifie en rien l'énergie de sa détermination. L'esprit de conquête, elle, est dans le sang de Loyola. Cet homme est né pour la haute compétition. Converti, il va désormais rivaliser avec saint François et saint Dominique, convoiter leurs vertus, imaginer des exploits pour Dieu et se livrer jusqu'aux pires excès à autant de contraintes volontaires et d'abstinence qu'un esprit généreux, enflammé de Dieu, a coutume de souhaiter. La vie de château. Cependant, la prime jeunesse de Ignace ne laisse guère prévoir de pieux desseins. Fils cadet de Beltrán Ibáñez de Oñas et de Marina Sáez de Licona, qui eurent 13 enfants, il est né en 1491. Baptisé sous le nom de Íñigo López de Loyola, ce n'est qu'en 1535, sur les registres de l'Université de Paris, qu'il signera Ignatius, prénom plus commun, mais sans rapport avec Íñigo. Le père de Saint Ignace s'est battu aux côtés des rois catholiques contre le Portugal et la France. À l'exception de l'aîné, Pedro López, qui devint prêtre sans renoncer à une vie relâchée, les 7 frères de Íñigo se consacrèrent au service de la couronne. La maison de Loyola se situe près de la petite ville de Azpeitia, dans le Guipuscoa, au cœur du Pays basque. Selon la coutume, la demeure donne son nom à la famille de son propriétaire, et c'est ainsi que Íñigo López deviendra Íñigo, puis Ignace de Loyola. Sa maison natale ressemble davantage à une citadelle qu'à une ferme seigneuriale. Entourée d'arbres fruitiers, elle jouit d'une vue agréable, mais ses murs épais, recouverts de briques, semblent plus propres à soutenir un siège que les rêveries. L'éducation du jeune Inigo est sommaire. La grande demeure n'a guère de place pour les livres. On n'en trouvera que deux lorsque, convalescent, il doit y faire un séjour forcé en 1521. Ignace a toujours parlé un castillan défectueux. Par contre, il acquit une belle écriture et le goût de la musique et des danses. Sur sa formation religieuse, nous ne détenons que des indices. Les seigneurs de Loyola détenaient des droits sur l'église de Aspeitia, dont celui de présenter le recteur. Ce privilège mettait la famille en contact avec la paroisse, ce qui n'excluait ni les attitudes fort peu évangéliques, ni la légèreté des mœurs. Ainsi, la région du Guipuscoa n'admettait dans ses paroisses aucun néo-chrétien ou juif converti. Cette pureté farouche de la foi inspire sans doute à l'un des frères de Inigo de s'offrir corps et âme à la très glorieuse Vierge Marie. Mais le même, à la fin de ses jours, pourvoit par testament à ses deux enfants illégitimes. Telle était la religion des Loyola. Beltrane fit tonsurer son dernier fils à un âge où Inigo n'avait nulle conscience d'embrasser l'état ecclésiastique. Cet usage courant à l'époque n'était qu'une astuce pour protéger le jeune clerc contre les rigueurs du bras séculier. Inigo profitera de l'immunité ecclésiastique quelques années plus tard dans une affaire pendable qui permet au passage de nous représenter l'état d'esprit du jeune homme. L'incident se situe en 1515. Depuis 1507 environ, soit peu avant la mort de son père, Inigo a été envoyé à Arevalo, dans la maison de Juan Velázquez de Cuellar, trésorier général de Castille, qui le traite comme son propre fils. En sa qualité de collecteur des impôts, Juan Velázquez circule beaucoup en Espagne. Il est fort possible que Inigo l'ait accompagné dans ses voyages. Il est certain qu'il cultive en cette compagnie aisée le goût des lectures chevaleresques, des armes et des belles manières. S'il ne pense guère de son propre aveu à la religion et à la piété, il cherche avec ardeur à remporter de la gloire. L'occasion se présente lorsqu'un différend oppose les Loyola au clergé de Aspeitia à propos des bénéfices curiaux. Au temps du carnaval de 1515, Inigo, son frère Pedro et quelques gros bras du clan familial recourent à des actes de violence contre le clergé paroissial. Inigo paraît bien avoir été le meneur de ces forfaits muy enormes, perpétrés de nuit, de propos délibérés, avec la traîtrise et au moyen d'une embuscade. L'incident fait grand tapage et entraîne un procès dont quelques pièces sont heureusement conservées. Outre les méfaits dont il l'accuse, ces documents décrivent le sieur Inigo, théoriquement tonsuré de son état, appliqué à soigner de longues boucles qui lui descendent aux épaules. Le prévenu porte pourpoint coloré et toque bariolé. Bref, un joyeux luron. Mais en dépit des griefs qu'on pouvait formuler à son endroit et de chefs d'accusation assez épineux pour lui provoquer plus tard de profonds scrupules, Inigo fut relaxé.
Petite vie de Saint Ignace de Loyola, un contemplatif dans l'action, le fondateur des Jésuites. Un ouvrage du père jésuite Albert Longchamp paru aux éditions Artege Poche. Une lecture proposée par Maïté Iratsoki.